Beauté, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus. Pour notre émission Dans nos communautés, aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Thalès Arojo, qui est en stage en ce moment, depuis début septembre, à la Fraternité, l'Église protestante unie de la Fraternité, rue Antoine Delon à Nîmes. Et puis, il va y être pour une année complète avec toutes les personnes de cette église. Il est en cinquième année d'études de théologie à l'Institut protestant de théologie de Montpellier. Et comme vous l'avez peut-être un peu entendu, bien que moi je n'avais pas vraiment l'accent, il est brésilien. Bonjour Thalès.
Bonjour Christiane, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. C'est avec plaisir que je suis là avec vous aujourd'hui pour me présenter un tout petit peu. Voilà. Je suis très ravi d'être avec vous.
Très bien, mais nous aussi. Et nous aussi, et donc le Brésil, c'est bien loin pour nous, mais c'est un grand pays dont on entend beaucoup parler de toutes sortes de manières. Vous pouvez bien vous en douter, Thalès. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire un peu de... Ben, où est-ce que vous êtes né, peut-être, au Brésil, si on peut situer à peu près?
Oui. Alors, moi, je suis d'une ville qui s'appelle Belo Horizonte, en portugais. En français, ce n'est pas très différent, c'est Belo Horizonte. Voilà, une grande ville dans la région sud-est du Brésil, à peu près à 105 km de Rio, 105 km de São Paulo. Donc, c'est une ville un peu au milieu des montagnes. On a donc cette ambiance entourée des montagnes. D'accord. Au Brésil, voilà.
Alors, nous sommes donc au Brésil. Et voilà qu'arrive dans la vie Thalès. Il est né où donc dans cette ville-là même? Oui, dans cette ville dont vous me parlez. Et puis, donc, il y a des parents, des frères et sœurs.
Oui, j'ai toute la famille qui habite dans cette même ville, dans la région, en fait. Et voilà, j'ai une sœur moins âgée que moi, mais plus jeune, voilà. Et les parents, les grands-parents, tout le monde, voilà, est dans cette ville, dans cette même région. Voilà.
Il y a eu quelque chose d'important dans votre enfance qui a été important pour vous dans votre enfance?
Alors, je grandis dans une famille très, très active dans une église. Donc, j'ai eu toujours ce contact avec la théologie, avec les écoles bibliques, avec voilà, cette atmosphère ecclésiale, pour ainsi dire. Donc, j'ai grandi dans un milieu évangélique, baptiste. J'ai passé toute mon enfance voilà, entourée de musique chrétienne, de vie impliquée dans l'Église. Tout le monde y était. Et donc, ça m'a formé, en fait, en quelque sorte.
Vous y étiez bien.
Oui, j'étais bien. Voilà.
Donc, tout petit déjà.
Voilà.
Et donc, ça ne vous a pas rebuté. Vous n'avez pas eu envie de lâcher tout ça pour aller ailleurs.
Non.
Pas vraiment.
Pas vraiment, à l'époque, non.
Très bien. Donc, ça, c'est bien. Ça s'est suivi tranquillement, je dirais, grâce à vos parents, votre famille, votre église. Et ensuite, vous avez fait des études et vous avez eu un parcours professionnel qu'il me semble pas vraiment en église.
Oui, donc parallèlement à ce contexte religieux, ecclésiastique, voilà, ecclésial. Donc j'ai travaillé, oui, dans une banque. Je commençais avec mes 18 ans et voilà, je travaillais dans 10 ans jusqu'à voilà, la direction d'une agence bancaire. Et voilà, j'étais conseillère aussi, j'aidais les clients avec des investissements, avec du patrimoine, plein de choses comme ça. Et oui, parallèlement, j'avais fait aussi mes études en gestion d'entreprise. Et bon, j'ai toujours vécu cette tension entre la vie professionnelle et spirituelle. Pas forcément une tension, mais un dialogue. Mm-hmm. Parce que pour moi, à mon avis, les deux s'entrélacent.
Voilà, en tant qu'un être humain, c'est un dissociable. Ce n'est pas vraiment conflit, c'est interrogation et relation de l'un à l'autre.
Exactement. Dans la structure humaine, il faut savoir être sapiens, rationnel et démence. C'est un peu fou, voilà, passionnel, comme disait peut-être Edgar Morin, le sociologue très connu. Homo sapiens, homo demens. Il faut un peu faire dialoguer cette complexité.
Ouais.
Et bon, heureusement, j'ai eu cette chance de vivre un peu ça dans ma vie. Les sciences dures et les sciences humaines et un peu de tout.
D'accord. Donc ça vous a... Ça a duré quand même assez longtemps, ce métier de banquier, enfin, en banque,
oui.
Tout cas. Et après, en entreprise, vous avez eu une entreprise parce que vous avez fait des études...
Je fais gestion d'entreprise et des administrations.
D'accord.
Mais j'ai toujours employé mon diplôme, voilà, pour ainsi dire aussi, dans mon métier de banquier, voilà, de conseillère, de responsable d'agence.
Une spécialité, en quelque sorte.
Voilà, voilà. Parce que aussi, je faisais la gestion d'une agence bancaire.
Oui.
J'avais une équipe, j'avais des gens avec moi. Et donc, ces connaissances ont été toujours appliquées dans ce milieu.
Voilà. Donc, combien d'années vous avez été dans ce domaine ?
10 ans, presque 10 ans.
Presque 10 ans.
Voilà, presque 10 ans. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des études en philosophie et en sciences des religions. Donc, parallèlement, voilà, encore une fois, simultanément, j'avais toujours cette affection pour les sciences humaines. Et voilà, j'ai entamé des études aussi de façon simultanée.
C'est pas rien, ces études-là, quand même, philosophie, sciences humaines. Et c'est assez costaud. Vous arriviez à gérer la vie professionnelle, qui est quand même bien complète. Je suppose que vous travaillez à plein temps, plus des études en plus.
Oui, oui. J'avais fait des études un peu hybrides, semi-présentielles, donc un peu à distance, un peu en présence. Donc, j'ai pu gérer un peu ça. Au Brésil, on a des facultés, des instituts. Des institutions qui proposent des cours le soir. Donc, on peut bien voilà, employer notre temps comme ça. Et comme c'est quelque chose que me ravit, là, j'étais très content et je mettais tout mon désir de vivre dans ces projets, ces études,
ces
voilà, dans ce parcours. Exactement.
Ouais. Alors, complètement autre chose. Hein.
Et donc, oui.
ça vous propulse complètement ailleurs, après les chiffres, après les choses très pratiques, en fait.
Et ça m'aidait beaucoup aussi dans la banque.
Ah oui.
Parce qu'avec mes relations avec les clients, avec mes collègues, mes pairs, donc... la philosophie, la religion et tout. Donc, j'étais toujours en dialogue avec eux, avec tout mon entourage. Et je pense que je suis toujours très Edgar Morin parce que je crois que la vie est très complexe dans le sens que tout s'entrélace, les tissus de nos vies, du temps, de nos rapports avec les autres, de l'altérité dans laquelle nous sommes, nous plongeons. Tout s'entrélace, en fait. Et c'est pourquoi j'insiste sur cette question de la complexité de notre monde, dans ce sens d'entrelacement, parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on est tout le temps présent avec notre âme, nos désirs, nos souhaits, nos passions, nos métiers, et d'une certaine manière, tout se combine. Voilà. Donc, tout s'harmonise.
Oui.
Et... c'est ce que je pense, c'est ce que j'essaie de vivre aujourd'hui avec tout ce petit bagage que j'ai pu voilà, porter avec moi.
Oui.
C'est un peu ça.
Le bagage s'est enrichi après, du coup, donc une dizaine d'années. Donc c'était dans la même ville où vous étiez avec vos parents. Vous êtes resté dans le même endroit.
Oui, oui, oui. Avec mes parents et tout, on restait oui. dans la même ville avec mon épouse.
D'accord.
Donc oui, ça a été tout le temps dans une grande ville de 6 millions d'habitants avec la région métropolitaine. Mais oui, dans la même ville, même si parfois on était à 30 km, 40 km de distance.
Ah, oui.
Au Brésil, les choses sont un peu...
oui, c'est méga...
démesurées.
Tout à fait. On a un peu de peine, nous, avec la petite France, à imaginer ça. Mais bon, c'est juste. Et vous aviez des implications aussi ou des responsabilités en église aussi, en même temps. Vous aviez... On vous a demandé peut-être de faire certaines choses, puisque vous avez grandi tout petit dans l'église.
Oui, c'était une église baptiste. Mon oncle était le pasteur, il est encore le pasteur, en l'occurrence. Et oui, surtout par rapport à la musique. Donc j'ai participé au groupe de musique de l'église. Et donc j'ai été toujours très actif dans ce milieu de jeunesse, de musique. Voilà, quelques projets sociaux qu'on menait. Donc oui, j'avais toujours mes activités dans l'église, au sein de l'église. Et j'étais toujours très enthousiaste, très passionné par tout ça. Et tout cela venait aussi compléter mon intégrité, pas mon intégrité, mais mon être.
Oui. En tant que... Vous jouez d'un instrument ?
Oui. Donc, je fais un peu de bruit un peu partout. Plutôt les cordes, batterie, un peu harmonica. Là, je suis un passionné de...
Alors, on va avoir l'occasion de vous entendre, peut-être ici ou là, hein, à l'occasion. Voilà.
De mes passions.
C'est toujours bon de savoir aussi les compléments autres que vous pouvez utiliser. Et en église, la musique, c'est important. Alors, puisque nous parlons musique, eh bien, nous voilà un lien tout fait pour que vous me disiez ce que vous avez... Ce que vous proposez comme musique pour que nous écoutions un peu de musique pendant notre émission, c'est habituel. Je fais une petite pause de musique. Oui. Qu'est-ce que vous avez choisi, Thalès ?
Alors, j'ai choisi une chanson qui s'appelle « Uma oração ao tempo » en portugais. En français, c'est « Une prière au temps d'un compositeur brésilien, un musicien qui s'appelle Caetano Veloso, avec l'accent français. C'est une chanson très populaire au Brésil, c'est un style très populaire au Brésil. Ça fait partie, pour ceux qui connaissent, de la MPB brésilienne, la musique populaire brésilienne. Donc c'est un mélange de bossa nova, de samba un peu, ces styles brésiliens culturellement riches qu'on connaît tous. Et donc, là, les paroles sont très belles aussi et parlent de notre rapport au temps, des changements. Donc, vous pouvez regarder après sur Internet pour voir avec les détails.
Nous y on voit. C'est l'occasion de connaître paroles. Autre chose. Oui. Mais ça bouge, la musique brésilienne. Hein?
Oui, celle-là est un peu plus douce.
D'accord.
Pour ainsi dire, mais bon, c'est une belle chanson. Bon. Belle parole.
Très bien. Alors, nous allons l'écouter, puis nous nous retrouvons juste après.
És senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destino. Tambor de todos os ritmos, tempo, 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 tempo. Ouve bem o que te digo, tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 tempo. És dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo.
Nous voilà de retour pour sur Radio Alliance Plus 103.2 que vous savez, vous pouvez écouter en DAB+ et allez aussi sur notre site internet radioallianceplus.fr pour écouter nos podcasts si vous n'avez pas la chance de m'écouter le vendredi à 18h15. Alors, je suis avec Thalès Arrojo, qui est brésilien et qui est en train de finir pratiquement ses études de théologie à l'Institut protestant de Montpellier et qui se trouve être en stage à la Fraternité de Nîmes, rue Antoine Delon, pour cette année. Pour épauler les pasteurs et puis pour apprendre aussi. On va voir quelles sont un peu vos idées, vos projets, vos envies. Donc, nous en étions un peu dans votre parcours professionnel, à ces 10 ans de banque et études diverses, philosophie, sciences humaines, etc., et vie d'église. Et donc, un changement a eu lieu pour que vous ayez envie de faire complètement autre chose, puisque nous sommes en train de parler de l'Institut protestant de théologie. Donc, ça a tourné comment, votre vie ?
Alors, comme j'avais dit, j'ai grandi dans une famille. Donc, la théologie était, d'une certaine manière, très imprégnée à mon existence. J'ai pu vivre de bons et de beaux moments, théologiquement parlant, avec ma famille. Mais à un certain moment, je constate que mes questions existentielles, surtout, n'étaient plus répondues. C'est-à-dire, il y a un physicien que j'aime bien, s'appelle Feynman, un Américain. Il dit qu'il préfère avoir de questions qui n'ont pas de réponse plutôt que de réponses qui ne peuvent pas être questionnées. Donc, j'étais à ce point-là pendant mon adolescence et je commence à lire certains auteurs, notamment français, quelques existentialistes, quelques philosophes. J'ai fait un stage quand j'avais 16 ans, à peu près, dans une bibliothèque. Et c'est comme ça que j'ai pu développer une certaine affection pour la France, et voilà, pour la culture française, pour la théologie réformée, parce que la France, nous savons bien, c'est le berceau, surtout ici dans le sud, le berceau de protestantisme réformé. Et donc, je commence un petit peu à découvrir toute cette richesse théologique européenne, française, allemande aussi, voilà. Et bon, après longtemps, j'étais déjà dans la banque, j'ai pu faire un petit échange en 2016, pendant mes vacances à Montpellier. Je suis venu pour faire un cours de français des affaires. Et c'est comme ça que j'ai connu l'IPT, j'ai connu vraiment à fond le PDF, la théologie enseignée ici. Et j'ai un ami qui est pasteur dès le PDF, un Brésilien. C'est lui, il s'appelle Pablo Sacilotto. C'est lui qui m'a présenté vraiment à fond cette atmosphère, cette ambiance, voilà, qui est libératrice, qui nous enveloppe d'amour et de grâce. Et donc, c'est lui qui m'a vraiment présenté ça dans sa profondeur, toute cette théologie. Et à partir de ce moment, de cette année 2016, avec mon épouse, on a fait le projet de tout quitter, tout vendre au Brésil pour venir faire les études en théologie. Donc, c'est comme ça que 3 ans après, en 2019, on atterrit ici en France, voilà, pour notre 3e fois ici, c'est ça en passant, et voilà, pour un projet à long terme. Donc, pour exercer le ministère pastoral en France, pour rester vraiment où je dois être, voilà. Je ne suis pas du tout fataliste.
C'est ça que vous avez entendu, compris, senti que voilà. Votre place était ici en France.
Et encore aujourd'hui, je sens que, voilà, je réitère, je ne suis pas fataliste, ni déterministe, ni rien, mais je me sens où je dois être. Donc là, c'est très un peu grec, eudaimonia, c'est l'harmonie avec l'ambiance, avec notre entourage, avec voilà, cette chaleur culturelle protestante qui m'a affectueusement accueilli ici en France.
Votre femme fait aussi des études de théologie ?
Non, pas du tout. C'est une autre histoire. Elle travaille dans le marketing à distance, voilà, avec des clients brésiliens. Elle fait la gestion des réseaux sociaux pour certaines entreprises au Brésil. Donc, elle travaille à distance, voilà, et dans le marketing. Donc, ça n'a rien à voir, bien qu'elle soit aussi très, très engagée, très impliquée dans son parcours spirituel. Elle a aussi grandi dans une famille évangélique.
Mais ça se complète bien avec vous, puisque...
Voilà.
Voilà, tout à fait. On sent qu'il y a toute une harmonie là, là dans ce que vous nous dites, et ça fait du bien de voir ça, puis ça fait du bien de sentir que on se sent bien à sa place et bien là où on est. Nous avons besoin de deux personnes comme vous, Thalès Arojo. Alors, voilà, vous êtes parti, vous êtes embarqué dans les études, et puis, donc, vous arrivez pour votre stage ici, plutôt à la fraternité, mais peut-être aussi ailleurs, s'il y a des besoins, je suppose. On vous a demandé certaines choses particulières, ou vous avez des désirs, des besoins, des envies pour ce stage qui commence, qui a commencé début septembre, juste début septembre,
oui,
là.
Oui, début septembre.
Voilà, donc c'est tout récent quand même, à peine un mois.
Oui. Alors, il y a tellement de choses à découvrir ici sur Nîmes que, voilà, j'ai hâte, en fait, de tout découvrir, de rencontrer tous les mondes, de visiter tous les lieux, liés à notre église ici sur Nîmes. Dans Nîmes et dans la région. Et oui, j'ai cette soif d'apprentissage, en fait. De découvrir, de m'ouvrir, en fait, à de nouveaux horizons, à de nouvelles perspectives. Et c'est vrai que ici, quelques-uns m'ont dit que c'est la capitale du protestantisme dans le sud.
Il y a ailleurs, il y a La Rochelle, par exemple. Je viens de la région de La Rochelle. Si vous allez à La Rochelle, ils vont dire aussi que c'est la capitale du protestantisme.
Il y a c'est régionalisme.
Il y a beaucoup d'histoire. Historiquement, c'est important dans cette région, c'est vrai.
Donc je me sens très... Voilà, je suis très ravi d'être ici à Nîmes. C'est une ville très dynamique. L'église ici... fonctionne, il y a plusieurs branches en fait, plusieurs activités, donc il y a plein de choses à découvrir, et j'ai cette soif de découverte, d'ouverture, parce que pour moi c'est très formateur, donc ces rencontres, les échanges avec tout le monde en fait, cette altérité qui nous permet de nous former, ça pour moi c'est très précieux. Et je veux aussi, à la fois, évidemment, apprendre, mais aussi aider, être utile.
Donner.
Voilà. Donner, exactement. Mmh. Donc, c'est mutuel. Mmh. Il faut donner, on va recevoir. C'est la logique du don. Mmh. Évidemment, on va donner sans attendre rien en retour. Mais il y a quand même dans cette dynamique un retour d'apprentissage, d'expérience, de grâce et de vie. De vie humaine. Donc ça, c'est pour moi le plus important. Donc cet amour qui emballe ce parcours et cette dynamique dans la ville de Nîmes.
Iris Reuter, le pasteur Iris Reuter, qui est votre référente, je dirais.
Oui, c'est l'accompagnatrice, officiellement parlant.
Voilà.
Oui, c'est Iris. Mm-hmm. C'est Iris Reuter. Mais évidemment, je suis avec... Je côtoie tous les autres pasteurs, les aumôniers, et c'est pour moi une grande joie d'être avec tous et toutes et vivre dans ce milieu très riche,
On sent beaucoup de désir, c'est tout naturel de la part d'un stagiaire quand même qui désire être pasteur, donc c'est votre souhait de devenir pasteur après.
Oui.
En France, rester en France avec votre femme.
D'exercer le ministère.
De vous établir en France.
Oui, oui.
Vous parlez très bien français.
On fait ce qu'on peut. Je ne suis pas un Victor Hugo, un Paul-Éloire, même pas un Macron, pour très éloquent.
Vous avez appris le français donc au Brésil. Et puis après, vous êtes venu plusieurs fois donc en France. Vous avez lu, je pense. En français aussi.
Oui, oui.
Ouais.
Depuis mon adolescence, en fait. J'ai appris plutôt à lire et à écrire.
Ouais.
Donc, j'ai appris à écrire et tout, à lire. Donc, c'était comme ça au début. Parce que c'est vrai que le français, en termes de prononciation, surtout pour les lusophones, ceux qui parlent portugais, c'est un peu compliqué, les voyelles. Les voyelles sont un peu, et compliquées. Et donc, en arrivant en France, donc là, j'ai pu développer un peu l'aspect oral, la compréhension et tout. Mmh. Mais oui, j'avais déjà un peu de connaissances, je parlais déjà un peu.
Ouais, vous nous avez parlé de plusieurs auteurs et, ou philosophes que vous avez. Si vous pouviez déjà lire en français, c'est que vous aviez peut-être quand même déjà un peu de connaissances quand même. Donc ces études vont se terminer cette année et après donc le Proposana, c'est ce qui est couramment. Vous avez un désir d'un endroit particulier?
Alors, pas forcément d'un endroit particulier. Je ne voulais pas les grandes villes. Paris ou Marseille, ça, j'ai dit ça comme ça, parce qu'en fait, au Brésil, j'ai vécu dans des grandes villes. Et voilà, donc je voulais me trouver dans une autre vitesse urbaine, pour ainsi dire. Parce qu'il y a toujours un rythme très accéléré, très exigeant, d'une certaine manière, dans certaines grandes villes. On a l'impression d'être toujours en retard par rapport à quelque chose. Et donc, oui, je voulais une ville, enfin, une dynamique urbaine plutôt active, mais quand même en respectant notre humanité. Donc, en tant qu'individu, ça ne veut pas dire que dans de grandes villes, il n'y a pas ça.
Bien sûr.
Mais j'ai vécu beaucoup dans des grandes villes et je voulais vraiment plonger dans un univers un peu différent pour justement voir à partir d'un autre prisme, d'un autre spectre, voilà, pouvoir vivre autrement. Mm-hmm. C'est ça. Donc, c'est plutôt quelque chose de personnel.
Oui. Voilà. Très bien. Eh bien, alors, nous n'avons plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Je ne sais pas si c'est de la chance. C'est nous qui avons de la chance d'avoir Thalès Arrojo ici pour nous aider, pour être là, présent. Et donc, c'est une richesse, hein, en plus, avec le Brésil. Et puis, il y a plein de choses qui mijotent. Donc, nous vous souhaitons une belle année. Et puis peut-être que nous aurons l'occasion de refaire une autre émission ou autre chose. Vous êtes invité cordialement sur là, à la radio, à Radio Alliance Plus, dans notre studio, pour revenir quand vous voulez.
Merci beaucoup vraiment pour cette invitation. Merci à vous qui nous entendez ici, qui m'a prêté vos oreilles, cet accent un peu différent, voilà, dans votre voiture, dans votre maison. Et merci vraiment à tous celles et ceux qui m'ont accueilli ici à Nîmes. Je suis très, très ravi d'être ici, je réitère, je suis très content. Et j'espère pouvoir être aussi utile parmi vous, avec vous, et apprendre sur tout ça. Merci infiniment.
Nous en sommes sûrs. Du cœur. Au revoir, Thalès Arrojo.
Au revoir, merci.
Vous écoutez Alliance Plus.